car toujours revient la question comment, dans la mouvance des choses, choisir les éléments fondamentaux vraiment qui feront du confus un monde qui dure. Et comment ordonner signes et symboles pour qu'à tout instant surgissent des structures nouvelles, ouvrant sur de nouvelles harmonies et garder ainsi la vie vivante, complexe et complice de ce qui est seulement la poésie. Elle reviendra, la pensée vivante, sûre comme ses ailes qui renvoient la lumière, exacte en sa beauté, sûre comme ses ailes et exacte en sa beauté, la pensée vivante, elle reviendra. Ma vie dans l'obscur, comme Akuyu, son nom disait « blanche obscurité », son nom disait « l'homme qui vit dans les collines, au-delà des eaux blanches du nord », ou bien caché, mais en éveil. Dans les cités d'Europe, ma vie a fondé les fondements d'un monde. Oui, tel Kandinsky, de retour à son atelier au crépuscule, posant les yeux sur une toile d'une beauté indicible et incandescente. Souvent, l'ordinaire de ma vie, effacé par l'oubli, par l'habitude, tout à coup s'illumine. Materia poetica, d'une réalité nouvelle, toujours plus riche. Et j'avance. N'aurions-nous que ces rochers dispersés sur la plage? Le vent ce soir souffle fort et il pleut sur la mer. Combien nous pourrions apprendre, car vivre dans le concert des rochers est possible. Et celui-là qui connaît parfaitement un seul rocher dans son être dense et son rapport avec mer et ciel a sans doute parole plus vraie pour les frères humains que cet autre qui ne cesse de vivre et pourrir dans l'attassement des cités qui ne disent rien de la vie. Comme ce rocher là-bas qui affronte les marées, affleurement de grès gris sombre, tels les rochers de notre enfance gravés de nos signes, avec de part en part une strate de granit blanc. Comprends cela, poète. Le méditant. C'était le froid parler des mouettes qu'il aimait et la pluie chuchotant à la fenêtre de l'ouest. Les longs jours, les longues nuits, où il avançait, dans ce qui demeurait sans nom. Malgré les cartes épinglées au mur et en bas toute une bibliothèque de science. Dehors, à la fin de ce sombre hiver, il voyait des fumées bleues. Des eaux vertes. Comme jamais il n'en avait vu, cela lui suffisait. Un corbeau affairé sur une branche le faisait rire aux éclats. La forme de la moindre feuille excitait son esprit. Son intelligence dansait parmi des mots adéquats. Lettre à Érigène. Sunt lumina. Effort. Semble soudain le mot qu'il faut. Dur labeur, travail sans trêve, comme acquérir les bases d'une grammaire, se frayer un chemin dans une logique inconnue. C'est la terre en travail qui produit le diamant. Ici, sur ce rivage anonyme, connaissant l'ouvrage, qui sont les ouvriers? Qui les découvreurs? La réalité opère des prodiges? Ouvrez, ouvrir. Les anciens cygnes montent du matin, le crâne s'emplit et se vide avec la marée. Énergie ramassée, le premier acte. Côte rocheuse, rocailleuse, vent rude, le langage nous dénoue, nous dénude, province de roc, racines et lumière. Interprétation d'un pain tordu. Si tu veux connaître le pain, deviens le pain. Matsuo Basho. J'ai commencé par pousser tout droit, comme qui que ce soit. Suivirent alors un virage vers le sud, une inclinaison vers l'est, une poussée vers le nord et un brusque tournant vers l'ouest. Donc, si vous m'approchez, attendez-vous à un brin de folie. Il n'y a pas que des pains dans ma philosophie. Oui, je dépasse la boïque, je suis un signe cosmologique. Je suis idiomatique, je suis idiosyncrasique, je suis pré-socratique. Peut-être même un peu chinois, comme Lipo, Tufu ou Monsieur Changse. Je vis paisible, mais les vents me prennent pour cible. Ma métaphysique est une danse au cœur de l'existence. Les branches de mon cerveau vibrent au soleil et au vent. La forêt de mon esprit est fécondée par la pluie. Ma résine et ma raison regardaient sur le ciel le pain fou, très réel. C'est pas fini, c'est pas fini. Je vais boire un coup parce que je suis asséché. Lettre de Harris. J'ouvre le livre et les mots s'envolent de la page. On imagine ces îles du Nord, prisonnières des vents, prises à jamais dans les brumes. Pourtant, nulle part on ne trouve lumière si vive, une mer si bleue, ses rives jonchées de lichens safran. Un pré d'œillé au mois de juin contient toutes les couleurs, depuis le blanc jusqu'au violet profond. Et le plumage blanc des oiseaux reflète l'intensité boréale de la lumière d'été. Méduse sur le sable blanc, couleur de whisky et de cognac, ou encore infiniment pâle, comme la première grappe de gelée vivante dans une aube darwinienne. Le disciple passe de longues heures silencieux, immobile, pour atteindre l'état de calme parfait au-delà de toute pensée. Libéré enfin du moi, il entre dans le domaine du vide. Cérémonie d'hiver. Il fait encore nuit. De gros flocons voltigent devant la vitre, et les toits des dépendances sont tout bossus quand j'allume la radio. Sémaphore de Bréa, bonjour, voici le bulletin de la météorologie nationale pour la zone côtière entre le cap Fréhel et la baie de Lannion. Prévision pour la journée du 8 janvier, temps très froid sous un ciel très nuageux, vent variable à 10, de 10 à 15 nœuds, mer peu agitée, visibilité souvent inférieure à 1 mille, sous des averses de neige. Tout le département des Côtes du Nord est sous la neige. Il a neigé à Ouessant pour la première fois depuis 100 ans. Ici, à Gwenved, au-dessus de la baie de Lannion, près du vieux sanctuaire, il n'y a rien. Pas un bruit. Seulement la forêt bleue, le ciel gris et le long murmure de la mer. Des oiseaux traversent le ciel par instants, sternes et goélands, épis de mer, blancs, blancs et noirs dans le blanc. Parfois une grive ou un moineau tout brun volait autour du seuil, mais le plus souvent il n'y a rien, seulement la neige qui tombe et le ronron du radiateur ici dans l'atelier. Et la lumière blanche, la douce lumière blanche, filtré par la neige qui recouvre la fenêtre. Finistera, ou la logique de la baie de Lannion. C'est dans la forme des capes. C'est dans la façon qu'ont les vagues de se briser sur la côte, avec un long élan pouf contre les rocs. C'est dans la lumière changeante, c'est dans le clair silence de ce matin d'avril. Là-bas, au Yodé, qui fut base romaine avant d'adopter la syntaxe du christianisme, on peut voir le légué, qui rappelle la Loire ainsi que toutes les autres eaux ligures, courir vers son estuaire dans l'éclat bleu-vert de ses eaux. Après cela, marcher sur le chemin côtier, depuis, disons, la vallée de Goaslagorn jusqu'à la plage de Porsmabo, c'est alors entrer et aller entre fleurs et flots, cherchant quelle blancheur ajouter à ces blancheurs. Les avancées qui viennent à l'esprit sont le Dourven, au large, le naufrage de l'Azalée, Bille qui cache à la vue l'île de Milo, à qui Brandan rendit peut-être une amicale visite, et tout au loin, perdu dans la brume et la lumière, Roscoff, la fin des terres. Épines, pins et bruyères, ajoncs et genêts dévalent vers l'anse sableuse des sables, et c'est un grand arc de terre indiquant l'Atlantique qui s'étend là devant soi. Je revois ce jour, il y a quelques années, où, venu ici pour la première fois, adossé à un pin, au-dessus de Porsmabo, je lisais Piron, dans la version du XVIIe siècle d'Estienne, cet ouvrage traite-t-il de choses sérieuses ou de noises? Je suspends mon jugement. Quel en est le sujet? Je ne comprends pas. Qu'as-tu défini? Je ne définis pas. Que fais-tu donc? Je me contente de regarder. De regarder ce lieu, de regarder dans ce lieu, et tout à la fois dans les circuits de mon cerveau, dans les aubes de l'été, dans les soirs dorés de l'automne, dans les brumes glacées de l'hiver, à l'instar de ces vieux taoïstes qui fondèrent l'Académie des goélands, un oiseau et un œil, un oiseau et un œil, l'idéogramme pour monastère, une académie sans mur. Contemplation active, pas d'idéaux, pas d'idoles et pas de projections trop hâtives, trop personnelles, trop poétiques. Plutôt des reconnaissances de longue portée dans l'espace et dans le temps. En homme qui a étudié la grammaire du granit, j'ai marché en ce lieu, en homme qui voudrait faire l'équation entre paysage et pensée. J'ai marché en ce lieu, en homme qui aime les voix et les vagues du silence. J'ai marché en ce lieu. Qui sait, peut-être, dans les temps futurs, un peu après la dernière catastrophe, Un touriste curieux venu de l'espace marchera-t-il sur ce même sentier, conscient de mon fantôme, toujours ici à suivre les lignes, toujours à regarder dans la lumière? White Valley. Not much to be seen in this valley. A few lines, a lot of whiteness. We are at the end of the world or at its beginning. Maybe the quaternary ice has just withdrawn. As yet, no life, no living noise, not even a bird, not even a hare, nothing but a wailing of the wind. Yet, the mind moves here with ease, advances into the emptiness, breezes. And line after line, something like a universe lays itself out. Without doing too much naming, without breaking the immensity of the silence, discreetly, secretly, someone is saying, here I am, here I begin. La vallée blanche. Peu de choses à voir dans cette vallée. Quelques signes, beaucoup de blanc. C'est une fin de monde ou bien un commencement. Peut-être le retrait des glaces du quaternaire. Jusqu'à présent, nulle vie. Nul bruit de vie, pas même un oiseau, pas même un lièvre, rien que le vagissement du vent. Pourtant, l'esprit se meut ici à l'aise, avance dans le vide, respire. Et, ligne après ligne, quelque chose comme un univers se dessine. Sans trop vouloir nommer, sans briser l'immensité du silence, discrètement, secrètement, quelqu'un dit « Je suis ici, ici. » Je commence. Navigateur de l'esprit, Héraclite. On l'appelait le sombre, l'obscur, le ténébreux, Os Koteinos. Parcourant de la Grèce le sol calciné, il déclarait « C'est du plus proche que l'homme est le plus éloigné. » Ou encore « Mieux vaut mettre fin à l'humaine comédie qu'éteindre un incendie. » Personne ne percevait la complexité des méandres de son esprit. Il quittait l'ombre, l'instant d'une aveuglante clarté, puis retournait à l'ombre. Skoteinos. Chronique orchestrée de l'île. Latitude 3 degrés 43 minutes sud, longitude 55 degrés 13 minutes est. On quitte le golfe d'Aden et on pénètre dans l'océan Indien. Là, au sud-est de Mogadiscio, s'égrène un archipel. À l'extrême nord de cet archipel se trouve l'île en question. Ses contours évoquent une harpe, mais chaque année elle change de configuration. Cette année, par suite de fortes tempêtes ou bien parce que le niveau de la mer monte, un grand pan de la façade nord-ouest, qui était une vaste étendue sableuse, a été recouvert par la mer. À cet endroit, les vagues frappent et érodent la falaise de sable, y sculptant de leur force rythmique des formes éphémères. Temps métamorphique, passage de la mousson du nord-ouest à celle du sud-est, ciel gris-perle. Enfoui dans cette grisaille, le soleil brille comme une lune. Vent chaud, bruit sourd des vagues, cris des sternes et des tourterelles. Haut dans le ciel, une bande silencieuse de frégates. isolement. Être avec la terre, rien qu'avec la terre. Ailleurs, tous les pièges de la pensée, toutes les fantaisies de l'imaginaire. Connaître un monde débarrassé de la fiction, des bavardages et des commentaires. Le rendez-vous radical. Au cours de leurs explorations nocturnes, des murs et du plafond du bungalow, les geckos font de petits tchoc, 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 tchoc. Ils disent tout ce qu'ils ont à dire. Les crabes, ici, sont vert foncé, bleu ou blanc rosé avec quelques autres petites variations. Ce sont de véritables épicuriens qui adhèrent strictement à la devise « Vie cachée, tiens-toi tranquille ». Danseurs à huit pattes, ils ont deux puissantes pinces, la plus grosse servant à creuser leurs trous. Pour ce qui est de l'évacuation du sable, ils se divisent en deux camps, les empileurs et les étaleurs. Les premiers élèvent des tas coniques à une trentaine de centimètres de leurs trous, de sorte que la plage ressemble souvent à une Égypte de pyramides. Les autres projettent le sable aussi loin qu'ils peuvent, faisant des traînées disposées en éventail. Cela ferme leur trou avec un petit motif de coquille aussi finement travaillé qu'une dentelle. J'avais cette classification bien en tête, d'empileur et d'étaleur, quand un soir j'ai vu un crabe qui avait fait un tas et aussi un éventail. Encore une catégorisation qui part en fumée. Le monde est toujours plus ouvert que nous ne pensons. De gros cumulus blancs glissent dans le ciel comme des galions. Le corps gris-brun, la queue noire, la tête poudrée de sel des nodis, la blancheur lumineuse, délicate, immaculée des gigis, le dos fauve strié et le court bec bleu pâle de la tourterelle. Tous ces oiseaux évoluent dans les parages de la véranda. Certains font de fréquentes visites, les nodis et les tourterelles. Les gigis blanches gardent leur distance. Parfois, c'est un petit foudi de Madagascar qui se présente, muant à cette époque du rouge-feu au brun doux. Plus loin, vers le nord, le ciel est rempli des criaillements des sternes fuligineuses qui tournoient interminablement, et toujours des frégates solitaires en escadron. Ici, sur l'île, j'ai une petite bibliothèque, Nietzsche, Husserl, Heidegger, ces figures philosophiques qui sont allées le plus loin. Nietzsche vole en tous sens, crie comme une sterne fuligineuse, proclame l'extase de l'existence. Husserl, assis sur sa véranda, médite dans une sorte de posture du crabe post-cartésienne, l'attitude phénoménologique. Heidegger est une tortue. De temps à autre, il sort son cou et prononce quelques phrases limpides et sensibles sur la pensée inaugurante, sur une clairière dont la philosophie n'a jamais entendu parler, puis se retire dans sa coquille philosophique d'où sortent les sons compliqués d'une phraséologie répétitive. Je lis ses livres à la tombée de la nuit. Le reste de la journée, je marche, nage. Prends des notes. Ce soir, 5 mai, dans un coin retiré de l'île d'un point de vue humain, l'île tout entière est retirée, mais je pense aux populations d'oiseaux et de crabes. Une centaine de petites tortues carrées se sont frayées un chemin depuis leur trou caché dans les buissons jusqu'à la mer. Les vaillantes petites créatures qui ne font pas plus de 4 cm de couleur chocolat clair, cavalée sur le sable, tantôt trébuchant, tantôt culbutant, tantôt s'écartant à droite ou à gauche, mais toutes se dirigeant vers la lumière du soleil couchant et la mer. Bientôt, une centaine de petites têtes dansées sur l'eau. Peut-être une ou deux survivront-elles. Peut-être. Chaque matin, vers les 6 heures, je pars faire le tour de l'île. Je me dirige d'abord vers le nord, puis reviens par la côte est en longeant la baie Hirondelle et la passe Coco, jusqu'à la pointe Gros-la-Tête. Et j'interprète ce dernier lieu comme la pointe limite de la pensée, là où celle-ci ne peut aller plus loin et doit être relayée par autre chose. Il y a toujours une bande de sternes huppées, une dizaine, rassemblées à cet endroit au bord de l'eau. Des gaillards un peu débraillés, ces oiseaux-là, mais d'une rude élégance. Sages sauvages de la plage vantée, taoïstes de l'espace pélagique. J'ai toujours été un observateur d'aube et d'aurore, mais je crois n'avoir jamais vu une aurore aussi splendide que celle de ce matin. Le soleil levant tracé à travers le bleu des rayons de lumière blanche, au sud se déployaient deux puissantes ailes dorées, au nord s'étendait une aire de totale sérénité, avec ici et là des phénomènes d'une étrange beauté, comme cette petite grappe de nuages rouges qui faisait penser à des fleurs de flamboyant. 1 million de sternes fuligineuses sont arrivées sur le site de nidification ces premiers jours de mai. Cela faisait une extravagante écriture noire et blanc dans le ciel et un strident cyclone de sons. Au fond, le fouettement fou des ailes, à l'avant la masse continue de criaillements aigus avec ici et là un cri individuel se détachant de l'ensemble. Cette bande, composée certainement de plusieurs bandes séparées, aura volé au-dessus de l'océan Indien pendant une année entière, sans jamais toucher terre. Quand la nouvelle couvée sera prête, elles repartiront. Pour le moment, elles choisissent leur emplacement avec une préférence pour les endroits où l'herbe a été écrasée ou brûlée. La mousson du sud-est apportera du poisson. Allongé sur la plage, comme un morceau de bois flotté. Kirak, 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 ouarou, ouarou. Kaka, kaka, vie de vie, tria, tria, tria. Lecture de Maury sur la côte bretonne. Selon les météorologues les plus prévoyants, on observera sur le Portugal plus de haute pression et plus de basse pression sur l'Écosse, ce qui causera une masse de perturbations ici au beau milieu de l'arc atlantique sur le promontoire armoricain. Il semblerait que c'est déjà le cas. Ce matin de mai, il fait encore nuit, seuls quelques rares vols de mouettes et un fort vent de pluie qui fouette la fenêtre. Je prends le Maury, à la reliure bleue, acheté il y a bien longtemps dans la vieille ville saturnienne de Glasgow, sur le rayon atlantique de ma librairie. La géographie physique de la mer et sa météorologie. L'objet principal des recherches relatives au vent et aux cartes des courants qui ont donné naissance à ce traité était de rassembler l'expérience de tous les navigateurs concernant les vents et les courants de l'océan pour commenter les observations de ces phénomènes et en présenter au monde les résultats pour le perfectionnement du commerce et de la navigation. Notre planète est dotée de deux grands océans, l'un visible, l'autre invisible. L'un l'enveloppe entièrement, l'autre couvre environ 2/3 de sa surface. Tout l'eau de l'un pèse environ 400 fois plus que tout l'air de l'autre. C'est au fond de cet océan plus léger que les forces que nous allons étudier entrent en jeu. Dans l'hémisphère sud, les courants sont larges et lents. Dans l'hémisphère nord, ils sont étroits, vifs et forts. Dans son ensemble, le large Pacifique ne présente pas de perturbations atmosphériques d'une compacité aussi frappante que dans l'étroit Atlantique Nord. Après avoir parcouru le texte, je contemple les cartes, des vents et des courants, des dérives et des baleines, des tempêtes et des pluies. La nuit maintenant s'ouvre sur une aube grise et venteuse, avec à l'est une grande balafre cramoisie et à l'ouest une pâle confusion bleue. Une autre bande de mouettes vient de crier au-dessus du toit, m'appelant au dehors, vers le rivage sonore, antérieur à toutes les histoires, où la mer élabore avec les débris dans l'espace et dans le temps son opus geologicum, tout en dispersant à tout vent épiphanie et satori. À Roscoff, un léger crachin chuchote autour des vieilles pierres grises. Des mouettes crient au-dessus de la chapelle des pêcheurs, à travers la fenêtre couverte de sel de cette vieille auberge. Je regarde sur l'horizon, au-dessus des eaux piquetées de roc noir, l'île de Bas qui pointe son phare dans le ciel gris. Ici, une jeune femme arriva du Nord, n'imaginant guère ce que lui réservait l'histoire. Ici, des marchands spéculateurs assurés de leurs capitaux construisaient d'opulentes villas aux extensions exotiques. Ici, un poète brisé traînait le long des rues son désespoir avant de s'embarquer sur des mers houleuses dans un bateau ivre. Que reste-t-il encore à espérer ? À la fin de l'histoire, à la fin de la philosophie, à la fin de l'identité, après tous les itinéraires, à travers tous les territoires, une réponse surgit dans le chuchotement gris de la pluie, un lieu où héberger une étrangeté. Le périple de Pythéas. Rares furent ceux qui me firent confiance lorsque j'exposai mon plan, plus rares encore ceux qui me crurent lorsque j'eus accompli ce que j'avais projeté. J'étais celui qui poursuivit l'exploration humaine jusque dans la mer de glace. Parti de Marseille, alors un avant-poste grec sur la côte celtique, j'ai navigué autour de l'Ibérie, passant par l'embouchure de l'Èbre, Ménac, Gadir, le Cap Sacré, et continuer ensuite jusqu'à l'île d'Uxizama, puis longer l'île de Bretagne par le Cap Cantion, atteint la pointe de la Calédonie, dépasser les îles des Orques jusqu'à Tulé. Suis redescendu par Erin et les Hébrides. J'étais l'homme qui ouvrait la vaste Hyperborée, qui auparavant n'était qu'une vieille légende et une croyance mythique. Je suis revenu à Massalia, une carte dans la tête, une étrange lumière dans les yeux. Quand je suis parti, ils étaient bleus, au retour, ils étaient gris, et une foule d'images. Personne ne savait qu'en faire, je ne le savais pas trop moi-même. Mon plaisir était simplement d'être assis là, à regarder le port phocéen, à me remémorer tout ce que j'avais vu. Parfois, lorsque je marchais le long des rochers de ma côte familière, on pouvait m'entendre rire. C'était la sorte de rire que j'entendis un jour sur le rivage celto-ibérien, qui débute lentement, rêveusement, monte vers quelque chose, comme le hennissement d'un cheval, et se termine par une note gutturale. Sur les traces de Nietzsche. En cette fin d'automne 83, il s'était mis à explorer la côte azuréenne, s'arrêtant quelques semaines à Menton, où dans un accès d'exaltation solaire, il composa les chants dionysiens de la Gaia Scienza. Puis continua en direction de Nice, dans une petite rue sombre, il loua une chambre, qui avait vu sur le port, avec sa foule cosmopolite, si joyeusement Auferdeutsch. Pour sa part, il ne disait jamais Nice, mais toujours Nisa, la forme italienne qu'il entendait autour de lui dans ce quartier de la vieille ville. Nietzsche à Nisa. La sonorité même de la chose suffisait à lui donner la sensation d'avoir enfin trouvé son lieu, le topos parfait pour le thème principal, de tous ces kilos de manuscrits qui le coltinaient toujours avec lui. Flânant dans les rues ces premiers jours, il croisa la fine silhouette d'une fille gracieuse et svelte, Niké en personne, ou peut-être la nymphe Nikaïa, poursuivie par Dionysos, comme on peut lire dans les Dionysiaques de Nonos. Il ne chercha pas à la connaître, souvenir fugace de Lou Salomé, heureux de savoir qu'elle était là, partie intégrante de l'atmosphère. Ce qui l'obsédait alors était son prochain livre, un livre de fin et de commencement, pensant qu'avec 10 ans de solitude et de silence, de jours lumineux et de nuits étoilées, il composerait une œuvre qui ouvrirait un monde totalement nouveau. À une dizaine de kilomètres de Nice, vers le nord-est, se trouve le village d'Aise-sur-Mer. C'est de là que part un sentier tortueux, creusé dans le roc calcaire, bordé d'oliviers et de chênes, avec ici et là un bloc rocheux, raviné par des millénaires d'eau tumultueuse, offrant au cours de la grimpée un poste d'observation et de contemplation sur la grande étendue bleue de la baie des Anges. Quel langage un tel esprit peut-il inventer quand il se parle à lui-même? Soit à l'heure émeraude précédant l'aurore, ou par les nuits d'étoiles filantes, pas seulement un langage poétique, mais un langage affranchi, bondissant et spontané, mêlant silence et sonorité, qui rassemble une complexe multiplicité en une nouvelle unité. Temps alcyonique, toutes les lumières du monde dansent sur la baie. Impossible d'imaginer un jour plus beau que ce jour.